sur une tentative de renouvellement au niveau des outils et des pratiques de l'enseignement des sciences de la Terre. Et il se trouve que Marion avait préparé très étroitement la séance qu'elle voulait présenter avec Michel Prieur qui est à ma droite. Donc Michel fait partie de cette équipe qui travaille en didactique de la géologie sur l'enseignement des sciences de la Terre. Et elle va, je pense, présenter peut-être une version allégée de la présentation de Marion, de manière à ce que vous ayez une idée de ce qui se fait dans notre équipe et quel type de questions on se pose par rapport à l'introduction de ces nouveaux outils et de ces nouvelles démarches. Voilà, Michel, je te passe la parole.
Bon, donc je vais essayer de me glisser un petit peu dans les diapositives de Marion, puisque je les suis à 1h15 et que, comme je suis gourmande, je suis quand même allée manger. Donc on va essayer de faire quand même cette présentation. Donc Marion Michaud est en collège, elle travaille en collège et elle a travaillé notamment à l'UFM dans les classes primaires, donc pour dire qu'elle a des problématiques aussi d'enfants plus jeunes peut-être que ceux du lycée. Et donc c'était l'idée de mener une expérimentation dans le cadre d'un collège. Donc c'est une utilisation en fait de GeoNote, qui est un logiciel qui, contrairement à beaucoup de logiciels dont on a parlé ce matin, qui ne sont pas des logiciels professionnels qui ont été réutiliser ensuite et adapter à l'enseignement, mais c'est un logiciel qui a été adapté, qui a été construit en fait pour l'enseignement et pour l'apprentissage des élèves avec des problèmes didactiques. Donc là je vais très vite puisque le cadre de travail finalement Eric vous l'a présenté, hein, et donc il a été réalisé dans le cadre de l'équipe de didactique des sciences de la Terre et il vous a présenté à peu près nos objectifs rapidement. Donc je dirais que les mots-clés en fait, sur lesquels on essaye de s'axer, c'est la place des TIS, la démarche d'investigation et le statut du modèle dans la classe, trois points clés que vous allez retrouver dans la séance qui avait été construite. Donc ces expérimentations, elles ont eu lieu à Villars-les-Dombes, dans la Dombe, donc dans le département de l'Ain, près de Lyon, il n'y a pas très longtemps, puisque ça a été conduit en janvier-février 2006. Et donc, c'était en classe de 4e, sur la partie du programme de géologie, sur la machine Terre, sur les problèmes de mouvement des plaques lithosphériques. Ce travail s'est adressé à 4 classes de 4e, ce qui représente 88 élèves qui ont travaillé en binôme et sur une séance de classe, je dirais classique, sans tricher, c'est-à-dire d'une heure et demie. Donc le contexte de la séance, en fait, les élèves au préalable ont travaillé sur les modèles de fonctionnement des plaques lithosphériques, le modèle d'accrétion, de subduction et de collision. Donc ils ont étudié ces modèles, ils les ont compris et ils ont dégagé les caractéristiques de ces trois modèles. Ensuite, je vais revenir, excusez-moi, donc ils ont, dans cette séance, utilisé le logiciel GeoNote. Ce logiciel, ils l'ont utilisé en deux temps. D'une part, pour travailler sur la région étudiée, qui est la région du lac Baïkal, en Russie. Et dans un premier temps, pour situer un petit peu cette région. Où est cette région dans le monde? Quelle est sa distance? C'est grand comment? Donc, ça a été le premier travail fait avec le logiciel. Et ensuite, dans un deuxième temps, ils ont mené une démarche d'investigation de façon à identifier cette région du lac Baïkal. Quel est le fonctionnement des plaques lithosphériques dans cette région? Alors, dans le premier travail, utiliser GeoNote pour se repérer. GeoNote propose en fait d'afficher des cartes et de superposer des vues différentes. Donc, le choix qui a été fait, ça a été de superposer une image satellite de la région du lac Baïkal et de la superposer à une carte de la France, mais à la même échelle. Et par la fonction transparence, de passer de l'une à l'autre. Donc, les élèves, par des fonctionnalités du logiciel, pouvaient zoomer et pouvaient effectuer des mesures avec un réglet. Donc, en mesurant cette région du lac Baïkal, en fait, on leur proposait des distances en France, des distances, mesurer la longueur et la largeur du lac, et on se rendait compte que la longueur, c'était en gros Paris-Marseille, et que la largeur, c'était Lyon-Bourg-en-Bresse, ce qui ne vous dit pas grand-chose, mais pour les élèves, c'était très parlant. Ensuite, le logiciel permet encore d'afficher une documentation complémentaire, une documentation qui n'est pas géolocalisée. Donc là, en l'occurrence, ils pouvaient afficher le planisphère de l'Eurasie et situer le lac Baïkal sur ce planisphère. Les différentes réponses des élèves peuvent être apportées dans un bloc-notes qui est situé en bas et dans lequel ils peuvent rédiger. Autrement dit, on est dans un environnement de travail assez complet. Dans un deuxième temps, on rentre dans la démarche d'investigation plus strictement, donc pour essayer de voir cette région, comment est-ce qu'elle fonctionne. Et les élèves ont connaissent, ont étudié les trois modèles du fonctionnement des plaques lithosphériques. Donc de ces trois modèles, ils avaient en cours au préalable dégagé les caractéristiques de ces trois modèles. Donc la séance est repartie de ce travail en essayant de voir finalement si jamais je veux identifier le modèle de fonctionnement des plaques lithosphériques de la région du lac Baïkal, quel type de caractéristiques je dois chercher à identifier. Donc ça, c'est un tableau que les élèves avaient rempli au préalable. Donc autrement dit, il faut que je m'intéresse au milieu, il faut que je m'intéresse au relief, il faut que je m'intéresse à la sismicité de la région, il faut que je m'intéresse au type de déformation, au type de faille qu'il y a dans cette région, au type de mouvement qu'il y a dans cette région. Donc les élèves ont leur modèle en tête, leurs trois modèles en tête, et le type de caractéristiques qui sont à rechercher sur le terrain pour essayer de comprendre le fonctionnement de cette région. Donc GeoNote leur permet maintenant d'essayer de partir sur le terrain et d'explorer cette région de façon à voir s'ils trouvent des indices qui sont en accord avec les caractéristiques qu'ils recherchent. Donc on a sur l'image satellite du lac Baïkal un certain nombre d'arrêts. D'arrêts au sens géologique, arrêts où on a des endroits où on peut effectivement avoir des données particulières. À partir de ces arrêts, ils peuvent consulter des données qui sont géolocalisées. Sur ces données, on va retrouver les fonctionnalités de zoom, de réglet, pour avoir une idée de l'objet qu'on est en train de regarder, d'observer. L'observation pure a ses limites, on le sait, donc l'élève a encore accès à une information complémentaire écrite sur cette donnée. Et puis, comprendre une donnée, ça demande aussi d'articuler des connaissances qu'on n'a pas toujours sous la main et on a du mal à lire la donnée qu'on a sous les yeux. Donc, l'élève peut encore afficher, dans le cadre qui est sur la droite, des données, une documentation, donc non géolocalisée, mais explicative, qui apporte des informations supplémentaires sur la donnée qui, elle, est géolocalisée. Donc, l'élève avait pour objectif de se promener, entre guillemets, d'aller d'arrêt en arrêt, d'identifier, d'ouvrir toutes ces informations, de les consulter, et à l'issue de cette consultation, de dire est-ce que je retrouve des caractéristiques d'un modèle de fonctionnement des plaques et quel type de caractéristiques je retrouve. Est-ce que j'ai retrouvé des séismes? Est-ce que j'ai trouvé des failles normales? Est-ce que j'ai trouvé des indices d'un milieu continental? Et sur la gauche de l'écran, il y a un historique de toutes les données qui ont été consultées, qui sont affichées, et l'élève annote sa donnée, donc il y a une fonction annotation qui lui permet de rentrer un mot-clé, deux mots-clés pour dire quel type d'indice il a trouvé. Donc l'élève rentrait l'indice identifié et rentrait en plus une lettre code pour dire cet indice, ça correspond à une caractéristique du modèle de l'accrétion ou du modèle de la subduction. Donc il annotait de cette façon sa donnée. Dans un troisième temps, il avait donc sous les yeux toutes les données qu'il avait consultées, toutes les annotations, et il devait choisir parmi les modèles qu'il connaissait cette région finalement à quel type de modèle elle correspond. Et il était dans une situation où finalement la région du lac Baïkal, c'est un rift continental. Donc lui, il connaît l'accrétion, la subduction, la collision. Et il y a une distorsion entre les modèles qu'il connaît et le modèle qu'il était en train d'explorer. Donc ça nécessitait pour lui de faire un choix qui n'était pas satisfaisant complètement. Donc il était obligé de l'instancier, c'est-à-dire de reparamétrer ce nouveau modèle pour pouvoir voir comment fonctionne cette région. Et en l'occurrence, c'était essentiellement le milieu en fait, qu'il fallait modifier, puisqu'on est en milieu continental et non pas en milieu océanique. Donc à cette issue, l'élève rédigeait dans son bloc-notes une conclusion sur le modèle choisi et sur les modifications qu'il fallait faire subir à ce modèle pour qu'il corresponde au fonctionnement de cette région. Alors quand on regarde un petit peu, finalement, au niveau satisfaction, les élèves ont mis un questionnaire de satisfaction pour voir ce qu'ils pensaient de ce travail. Ils ont noté notamment cette séance. Et bien, ils ont été nettement séduits par cette séance. Ils ont mis entre guillemets des bonnes notes, 16,7 sur 20. Et les élèves, en fait, soulignent particulièrement. Un élève souligne de cette façon-là, en s'exprimant librement, il trouvait intéressant de savoir sur quoi on va travailler et l'intérêt de pouvoir parcourir la zone sous forme d'indice. Autrement dit, la démarche l'intéressait. Il se retrouvait en ayant son modèle central de rôle de pivot, d'appui pour sa démarche d'investigation. Et ils étaient très séduits par le fait de pouvoir finalement se déplacer, d'aller voir les différents indices. Ils ont été très séduits aussi dans le logiciel sur le fait de pouvoir consulter. La consultation de données, de photos, d'images, de données, leur a beaucoup plu. L'élève qui dit « on découvre des régions et on voit plein d'images qui nous expliquent la vertu de l'observation ». Et puis, bon, certains élèves ont été un peu perturbés par cette navigation et l'élève qui dit « je ne sais pas comment s'en servir, dans quel ordre ». Et il y avait effectivement, en tout cas, des problèmes de navigation qui, lors d'expérimentations suivantes, ont été en grande partie résolus. En termes d'apprentissage, si on regarde des premiers résultats succincts, sur 44 binômes, on a 35, soit 80% des élèves qui ont identifié les indices de terrain et qui les ont bien reliés à un modèle de fonctionnement des plaques lithosphériques. Quelles caractéristiques je trouve sur cet arrêt et à quel modèle ça correspond ? On en a 71% qui ont correctement identifié à la fin, finalement, à quel modèle de fonctionnement des plaques ça correspondait et qui ont reparamétré leur nouveau modèle. Dans la distorsion, il y a des élèves qui ont été coincés, qui n'ont pas su faire, mais on a aussi des élèves dans les traces, on se rend compte qu'en fait, il y a des élèves, c'était l'heure de la fin, et n'ont pas non plus pu aller complètement jusqu'au bout, c'est pas forcément qu'ils ne savaient pas faire. Donc, le bilan qu'avait dressé Marion, c'était que finalement, c'est un logiciel qu'elle a trouvé intéressant au niveau du collège, tout à fait adapté pour travailler avec des élèves de collège, qui permettait effectivement de les engager dans une démarche d'investigation, de recherche, qui permettait de travailler, en l'occurrence ici, sur une région éloignée du globe qui n'était pas accessible pour eux. Et il a été source de motivation pour les élèves, et ça a permis de traîner des élèves, d'attirer des élèves qui sont d'une façon générale en difficulté dans ces classes. Alors, Géonote a été testé par ailleurs dans d'autres scénarios et dans d'autres conditions. Notamment, je vous parlerai de ce qui a été réalisé au lycée. Il a été testé en terminale S dans deux contextes complètement différents. Dans celui de la crise crétacée tertiaire, avec un petit peu une dimension qui pouvait un petit peu rejoindre ce dont parlait Jacques ce matin, mais en allant plus loin. Donc, qui permettait d'observer des données au niveau mondial, puisque c'est le problème de la crise crétacée tertiaire, c'est un phénomène mondial. Donc, localement, on peut peut-être observer un site, mais on ne peut pas avoir accès à toutes les données sur le terrain en allant se promener, malheureusement. L'objectif de l'élève était en fait d'argumenter le choix d'un modèle. Donc en fait, ils avaient les deux modèles possibles qui expliquent la crise qui est assez tertiaire. Ils devaient, en consultant les données de Géonote, argumenter quel type de scénario pouvait leur paraître probable. Et en fait, les deux moitiés de la classe étaient partagées. Ce qui fait qu'en fait, une partie de la classe devait argumenter en faveur d'un scénario et l'autre moitié de la classe en faveur d'un autre scénario. Et dans un deuxième temps, les élèves se rencontraient. Donc, d'où un moment en fait, de travail collaboratif où le jeu de données observé par un groupe était confronté au jeu de données observé par un autre groupe. Dans les deux exemples dont on a parlé, en fait, on est dans des élèves qui ont consulté des données mais qui ne sont pas allés sur le terrain. Donc, le logiciel a aussi été utilisé en articulation avec un travail de terrain, où les élèves ont préparé leur classe de terrain avec le logiciel, puis l'ont exploité avec le logiciel. Et notamment, Géonote propose aussi un mode édition qui permet aux élèves de se constituer leur propre jeu de données. Donc les élèves étaient partis sur le terrain avec un GPS, avaient fait des photographies numériques de leurs données, et au retour ont réalisé leur propre parcours géologique pour essayer de démontrer à quelqu'un, finalement, si les Alpes sont une chaîne de collision, eh bien, à quel endroit est-ce que je peux aller et qu'est-ce que je vais pouvoir observer. Voilà.
Michel, je précise donc, je rappelle que il y a quelques minutes, Michel ne savait pas encore qu'elle allait présenter ses diapositives. Merci d'avoir réussi à parler en lieu et place de Marion. Peut-être un élément de précision par rapport à ce que tu as dit, tu as utilisé le terme de trace. Alors il se trouve que nous, quand on fait utiliser des logiciels, enfin notre logiciel avec les élèves, on récupère une trace informatique de leur travail, c'est-à-dire que chaque clic sur l'interface, chaque utilisation de l'interface génère une ligne dans un fichier qui nous permet ensuite de retracer l'historique des actions de l'élève. Alors ce travail, nous l'utilisons pour faire un travail dans un premier temps qui est un travail d'analyse du travail de l'élève. On essaie de mettre en relation en fait un travail sur l'interface, sur le logiciel, avec l'appropriation de connaissances que l'on peut mesurer ou qu'on peut évaluer en enregistrant les élèves, leur discours devant le logiciel. Et actuellement, on a des gens qui sont venus nous rejoindre, qui sont des gens de psychologie cognitive, qui travaillent sur ces traces et qui disent « les traces que vous produisez, elles sont intéressantes parce que pouvoir montrer ce que l'on a fait à quelqu'un d'autre dans le cadre d'un travail collaboratif, c'est intéressant. » Donc on a des expérimentations qui sont prévues au cours desquelles les élèves auront la possibilité de montrer ce qu'ils ont fait avec le logiciel à d'autres élèves, et on essaie de voir si c'est intéressant effectivement du point de vue de l'apprentissage que de faire ce type de travail. Voilà, je laisse la parole à la salle s'il y a des questions qui émergent. je précise les noms quand je les connais. Benoît Urgélide, donc de l'INRP.
Oui, je voulais qu'on revienne sur les questionnaires là, des élèves. En fait, c'est les 88 qui ont répondu au questionnaire de satisfaction.
Tous les 88 élèves qui ont travaillé avec le logiciel ont tous répondu au questionnaire de satisfaction.
Et c'était oui. Des questionnaires anonymes ?
C'était des questionnaires anonymes, oui.
D'accord.
Oui.
Et en termes de pourcentage de satisfaits, par exemple la remarque sur « je ne sais pas comment m'en servir », qui est en fait un problème technique de positionnement. Alors, par rapport à la technologie, est-ce que c'est une position dominante ou c'est... un élève sur 88.
Dans le cadre de cette expérimentation, ce qui revenait le plus... Alors, il y avait beaucoup de questions ouvertes volontairement. De mémoire, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais de mémoire, hein, il y avait à peu près 11% qui soulignaient le problème de la navigation spontanément. Spontanément, c'est quand même beaucoup, 11%. Et il y avait effectivement un problème de navigation qui a été résolu, de fenêtres qu'on ferme maintenant plus facilement. On a un retour à la vue qui est plus facile. Et on va le voir, puisqu'en fait, il a été expérimenté en classe de terminale avec et sans l'amélioration. Et on va pouvoir comparer sur ce point-là les deux questionnaires de satisfaction. Je pense et j'espère qu'on aura une évolution notable, en fait, hein, puisque demain, il est expérimenté à nouveau dans de nouvelles conditions. Dans les classes de quatrième, les deux points au niveau de la satisfaction, c'était vraiment la fascination par l'image, de pouvoir voir vraiment les choses. Même au niveau terminal, mais en quatrième, c'était flagrant. Et au niveau des quatrièmes, la difficulté spontanément qui revenait le plus souvent, c'était lire les informations, la lecture.
Michel, c'est après-demain. Demain, tu es en week-end. Enfin, on est jeudi de l'Ascension.
Super.
Juste une question pratique. Ce logiciel, il est opérationnel, donc là
si Alors, ce logiciel est opérationnel. Il est aujourd'hui téléchargeable sur le site Praxis de l'INRP. Et il est remodifié en permanence, puisqu'on est parti d'un prototype. On l'a construit au fur et à mesure des expérimentations. On le modifie, on l'améliore. Et il y a donc une personne actuellement, la personne dont parlait Eric, qui est en master de sciences cognitives, qui travaille sur le logiciel et qui nous aide techniquement à le faire évoluer.
D'accord. Donc on peut dire à tous nos enseignants que s'ils souhaitent, ils peuvent le télécharger et l'expérimenter.
Oui. Alors ils ont d'une part le logiciel à télécharger, les jeux de données sur les séances auxquelles on travaille à télécharger, et puis sur le site aussi des démarches qui ont été suivies, qui sont proposées, qui sont analysées, qui sont... Donc il y a accès à tout ça sur le site de... Alors tout ce qui est technique est plus sur le site de Praxis, et tout ce qui est expérimentation est sur le site Access.
D'accord, merci.
Mais si un prof de géo veut le prendre en main, il peut se construire sa base de données.
Puisqu'il y a un mode édition, effectivement, tout le monde peut se construire son jeu de données. Donc que ce soit l'élève en cours de TP, que ce soit le prof à l'issue d'une sortie, ou le prof à partir d'une documentation qui l'intéresse, oui.
Ce qui m'a intéressé dans Géonote, c'est justement la possibilité de, pour un géographe ou un autre, de pouvoir faire des études de cas qui ne soient pas uniquement géologiques, mais d'autres formes, hein, qui sont spatialisées. Moi, ce qui m'intéressait, c'est la démarche d'investigation, qui me paraît très intéressante parce que c'est très ludique. Hein, on s'approche des jeux vidéo, dans une certaine mesure. Et donc, et je trouve qu'il serait intéressant de coupler la démarche d'investigation avec une démarche de simulation par derrière, qui permet d'aller au-delà du simple relevé d'informations qui permettent pour vous, dans le cas de Black Baikal, de construire un modèle, enfin d'élaborer un modèle, mais d'aller toujours un tout petit peu plus loin pour justement... dire passer de l'investigation à la simulation, c'est-à-dire de voir ce
Alors
que ça peut donner.
Dans le cadre de cette séance, en fait, il y avait une question finale qui était donnée aux élèves et sur laquelle ensuite l'enseignant a travaillé, c'était effectivement d'imaginer le futur de cette région. Donc on est un petit peu dans la simulation, dans la projection. Et si aujourd'hui on a ce fonctionnement des plaques lithosphériques, à partir de tous les indices, les élèves ensuite avec le professeur projetaient dans le futur le fonctionnement, en fait.